rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaut Docci, le micro de Radio Présence pour votre émission de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Et pendant ce mois de juin, nous sommes avec Monseigneur Robert Le Gall. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaut, bonjour à nos auditeurs.
Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le chemin néo-catéchuménal. En effet, vous avez été récemment invité à une rencontre en Galilée par le fondateur du chemin néo-catéchuménal. L'occasion pour nous de faire le point sur cet itinéraire de formation catholique, selon les mots de l'organisation elle-même. Et donc ce chemin néo-catéchuménal, qu'est-ce que c'est, Monseigneur ?
Vous avez émis en effet le nom, le chemin néo-catéchuménal. Chemin, c'est un chemin, non, c'est un itinéraire. Vous avez employé le mot tout à l'heure. Et ce chemin, vous savez qu'il y a un chemin qui a été particulièrement célèbre dans l'histoire du christianisme et au début des Actes des Apôtres, avec le chemin de Damas. Donc avec conversion de saint Paul, et qui a initié pour lui, alors qu'il persécutait les chrétiens, il est devenu un des plus grands, des plus grands théologiens.
Et praticiens aussi.
C'est extraordinaire, saint Paul, c'est le plus grand certainement des penseurs chrétiens dès l'origine. Et donc c'est un chemin de conversion. Un chemin de conversion, et car en effet, catéchuménal, qui dit catéchuménal, c'est catéchumène. Les catéchumènes sont des gens qui ne sont pas baptisés, qui se préparent au baptême, et qui donc ont des étapes de conversion qui les amènent au baptême, avec un itinéraire qui dure, indépendamment du néo-catéchuménat, dans nos services de catéchuménat dans nos diocèses, dans Toulouse, en ce qui me concerne. Donc il y a un cheminement, des étapes, c'est-à-dire un chemin, un chemin qui aboutit au baptême, et le baptême n'étant lui-même qu'une étape, pour ensuite qu'il faut mettre en valeur le baptême.
Mais c'est un autre baptême alors chrétienne. C'est un deuxième baptême ?
Ah, pour les néo-catéchuménales, non, certainement pas. Non,
c'est un... Mais pourquoi néo alors ?
Eh bien, c'est un peu que les néo-Airbus.
Qui sont plus verts que les Airbus.
Et ils consomment moins. C'est davantage écologique.
Mais est-ce que ça s'adresse à des gens qui sont déjà catholiques, ou est-ce que ça vise au contraire la conversion de gens qui ne le sont pas ?
La plupart du temps, il s'agit de personnes qui sont déjà chrétiennes, donc déjà baptisées, et c'est d'où un nouveau catéchuménat.
D'accord.
Donc ils font un nouveau cheminement, parce qu'on doit le dire malheureusement qu'un certain nombre de chrétiens, notamment des chrétiens qui ont été baptisés en bas âge et qui ont laissé tomber leur foi, comme j'en ai le témoignage souvent dans les lettres des catéchumènes, précisément adultes qui demandent le baptême pour Pâques, ou des gens qui préparent leur confirmation aussi, et les gens ont laissé un peu tomber ça, même si Dieu leur frappe à leur porte, et donc ils reprennent, par des circonstances diverses, le chemin vers la foi. Et le néo-catéchuménat est une manière un peu drastique et puis particulière de favoriser pendant plusieurs mois, même voire deux ans, trois ans parfois, avec un groupe qui est toujours le même, d'un approfondissement de la foi en vue d'un engagement de plus en plus conscient et généreux.
Alors, vous dites drastique, effectivement, parce que... Bon, on entend parfois peut-être des reproches ou des interrogations par rapport à ce chemin, et notamment celui d'être un peu trop orthodoxe, un peu trop dur. Est-ce que, effectivement, vous comprenez cette remarque ?
Orthodoxe, je ne sais pas si c'est le mot juste que j'emploierais moi-même, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une foi autre que la nôtre, ils ne sont pas intégristes d'aucune manière, ils ne sont pas traditionnalistes, mais ils prennent au sérieux l'Évangile et les moyens, en effet, d'être fidèles à l'Évangile. Je crois que c'était plutôt des sortes d'évangéliques, si j'oserais dire d'évangéliques catholiques. et qui nous booste un petit peu à cet égard-là. Et le but étant, en effet, de former des communautés. Ce qui m'intéresse dans le diocèse, au moment où nous mettons en place des fraternités missionnaires ou des communautés de proximité dans lesquelles nous travaillons actuellement dans le diocèse de Toulouse, et j'en préciserai un petit peu davantage des contours à la rentrée prochaine, donc à partir du mois de septembre, d'octobre 2019, où nous sommes. Et donc, fraternité de proximité en des petits groupes où les chrétiens nourrissent leur foi, donc célèbrent leur foi, donc ça, échangent sur leur foi, et aussi rayonnent autour d'eux. Et un des concepts dont nous a parlé Kiko. Et Kiko, le fondateur, oui. Quand nous étions en Galilée dans la semaine qui a suivi Pâques, oui. C'est de montrer comment, au cœur du mouvement néo-catéchuménal, du chemin néo-catéchuménal, il y a vraiment les familles. Les familles qui sont les pourvoyeuses principales des communautés néo-catéchuménales. Des familles. Et moi, j'ai célébré à plusieurs reprises ici, dans les parce que vous dites dans Toulouse, on n'avait pas en effet de réalité très visible du néo-catéchuménat.
Oui, il faut préciser peut-être à nos auditeurs qu'à Albi, effectivement, il y a clairement une paroisse qui leur a été
depuis
confiée.
Depuis 30 ans. Non, c'est pas une paroisse, c'est une chapelle. Il n'y a pas de curé. Oui. Mais ils sont présents depuis une trentaine d'années.
C'est alors,
les gens qui étaient en lien avec ce mouvement, avec ce chemin, allaient régulièrement donc, sur Albi. Mais il finissait par être un petit nombre même ici, et on m'a proposé d'accepter ici, de recevoir ce qu'on appelle des missionnaires ad gentes, c'est-à-dire des missionnaires envoyés un peu partout par des volontaires, des familles, là encore des familles qui viennent s'installer là, et là où on leur demande, et ils laissent tout tomber, c'est assez admirable là où ils sont, et c'est des milieux parfois d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de gens de loi, etc., dans des milieux. Alors, ils laissent tout tomber et ils s'occupent eux-mêmes de trouver un logement pour eux, un travail, ce qui n'est pas évident avec les papiers qu'il faut avoir. On a eu d'ailleurs, de ce côté-là, une impossibilité pour une famille dans les États-Unis, avec les fermetures des frontières réciproques dans le contexte actuel. Donc c'est pour ça qu'on reçoit plutôt maintenant des familles européennes. Et on a ainsi des familles des Espagnols, des Italiens et des gens qui viennent d'autres pays, surtout des pays latins.
Des pays latins plutôt. Et donc nous nous apprêtons à accueillir des familles à Toulouse.
C'est pas nous apprêtons, ça fait déjà 2 ans qu'elles sont là.
D'accord. Elles sont en train de former des communautés.
C'est ça. Mais il y a déjà deux communautés qui fonctionnent comme telles. D'accord. Sur Toulouse. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé qu'un prêtre bien connu du diocèse et fait partie d'une de ces communautés.
D'accord.
Et donc, c'est vraiment intéressant. Et je crois qu'en effet, il y a un certain nombre de questions sur le néo-catéchuménat. J'en ai eu quelques-unes encore après mon séjour de presque une semaine là-bas, oui. À leur maison qu'ils ont au-dessus du sanctuaire des Béatitudes, oui. Au nord du lac de Tibériade. Et notamment la personnalité évidemment très, très forte et marquée, très présente du fondateur, de Kiko. Et donc est très riche, mais aussi pose peut-être des questions. Mais liturgiquement aussi, ils sont des façons qui leur sont propres.
Oui, j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus. Effectivement, par exemple, les reproches qui leur sont faits effectivement dans ce sujet, c'est une forme de liturgie qui est très 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 très, on va dire, étirée. Et puis aussi le fait de ne célébrer que le samedi soir, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'ils, en fait, ils retrouvent la pratique, celle des premiers chrétiens, et celle qui est mise en œuvre, presque mise en œuvre, à la Vigile Pascale chaque année, parce que la Vigile Pascale, autrefois, se poursuivait toute la nuit jusqu'au lever du soleil, et on chantait. C'est pour ça qu'il y a un caractère un peu austère de la Vigile Pascale, après qu'on a allumé le cierge pascal, et il y a des lectures de l'Ancien Testament nombreuses, et on lisait plus que ça, toute la nuit, jusqu'au lever du soleil, on célébrait la messe au lever du soleil pour fêter le Christ ressuscité. Alors eux, ont une vigile pascale tous les samedis soirs.
Tous les samedis soirs.
Les samedis soirs, et ils n'ont pas de messe. Et donc, ils ont la messe à partir de 8, 9 heures le soir, jusqu'à vers 10, 11 heures. Et donc, après ça, ils ont une petite délagat fraternelle aussi, et ils se couchent, je pense, après. Et puis le matin, un peu plus tard, vers 10 heures, en famille, ils chantent les laudes.
D'accord.
Leur manière de faire à pignon sur rue ecclésiale, puisque ça a été reconnu par le Saint-Siège. Il y a eu des discussions, il y a eu un certain nombre de mises au point aussi par Benoît XVI notamment. Alors vous trouvez partout dans les maisons du catéchuménat, vous trouvez la même croix dessinée par Kiko. Vous avez du pain à l'autel qui est un pain que, comme une galette assez épaisse de froment. Et qu'on fractionne véritablement. On reste assis pour pas mal de un certain nombre de moments de la messe. Et puis il y a avant les lectures, le président de l'Eucharistie, moi j'ai célébré des messes plusieurs fois dans un garage à Colomiers. Donc pour la communauté, mais qui n'a pas. Récemment, au moment de Pâques, justement, a eu lieu une célébration à Escalquins. Escalquins, le curé avait prêté. Avait autorisé que soit dans une église, parce que je n'ai pas la peine de rester dans les caves, dans les catacombes. Donc, j'ai pas d'inconvénient.
Une personne qui voudrait essayer, qui voudrait venir ouvrir la porte, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit contacter aujourd'hui?
C'est assez simple, il suffit de contacter, il y a un responsable sur Toulouse, je n'ai pas les coordonnées sur moi pour vous les donner, mais c'est facile à trouver
par
Internet ou par l'archevêché.
D'accord.
Moi j'ai mentionné le numéro de téléphone sur mon iPhone, mais je ne vais pas vous le donner maintenant,
non.
Bien sûr. Et donc ce monsieur qui s'appelle Bruno donc est un peu le responsable d'une catéchuménat sur le diocèse. Et donc, qui peut vous indiquer les dates de rencontre. Ils emploient beaucoup le mot de convivenza. Mm-hmm. Convivenza, c'est de vivre ensemble, c'est être convive, c'est vivre au sens très fort du mot. Si un des titres que donne Pierre au Christ dans ses premiers discours après la Pentecôte, c'est le prince de la vie, eh bien, nous sommes convives, nous sommes invités à vivre de sa vie ensemble, con. Vivre ensemble, ça pourrait être un mot de la fin.
C'est un mot de la fin.
C'est un mot de la fin de la convivence. Vivre ensemble, vivons ensemble, et c'est une des manières. Je ne la prône pas comme seul, bien entendu, mais c'est une. Et qui peut nous faciliter un petit peu et nous encourager dans ce que nous faisons pour les fraternités missionnaires.
Merci beaucoup, Monseigneur Le Gall.
Merci, Thibault.
Rencontre avec nos évêques.